Brume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma. Et nous avons le plaisir d'être dans les studios comme chaque mercredi avec Hakim Fdaouche et Raphaël Lorenzo. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, auditeurs de Brume.
Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs films. Alors, pas forcément des sorties de la semaine, mais on va vous faire un petit panel comme ça. On va notamment parler d'un très beau film qui s'appelle Le sel de la terre de Salgado, sur l'œuvre de Salgado, c'est ça ?
De Wim Wenders,
réalisé par Wim Wenders.
Ok. Et on parlera aussi, Raphaël, tu es allé voir le documentaire, notamment produit par Keanu Reeves, Side by Side, c'est ça ?
J'ai essayé de rattraper le retard du Festival Lumière, on l'avait raté malheureusement.
Ah, tu l'avais raté ?
Oui.
Ça avait été compliqué de le voir, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et tout ça. Mais on va parler de
puis
ça.
Puis ça change un peu, quoi, documentaire.
Et on parlera aussi d'un film qui s'appelle Paradise Lost, Lost Paradise, même plus.
Paradise Lost, ouais.
Tellement
Paradise
ça m'a marqué. Et qu'on est allé voir avec Hakim et qui retrace le parcours d'un jeune Canadien qui tombe éperdument amoureux de la nièce de Pablo Escobar. Donc c'est pas vraiment un biopic, c'est plutôt l'histoire de ce Canadien et comment il va rentrer un petit peu dans le monde de Pablo Escobar, dont le règne vit un petit peu ces derniers jours.
Et comment il va pas pouvoir s'en sortir, hein. Parce voilà, qu'une fois qu'il a mis un pied dedans, bah, ça va être difficile d'en sortir.
Ça va être compliqué. Et puis du coup, on en profitera pour, vous le savez, chaque semaine, on revient un petit peu sur un réalisateur, un acteur ou sur un grand moment de l'histoire du cinéma. Et du coup, on en profitera pour revenir sur la carrière de Benicio del Toro, qu'on aime beaucoup, je crois, bah, tous
oui,
les trois.
Oui, qui, enfin,
en tout cas,
rien,
moi, j'aime beaucoup.
A eu un Oscar et un prix d'interprétation à Cannes.
Et hein. On continue sur la voie un petit peu de Denzel Washington, puisqu'ils ont commencé dans la même série de Flic à Miami.
Oui. Alors, on attaque par le Salgado, tiens. Oui. Dites-nous-en donc des nouvelles.
C'est un film que toi, Raphaël, tu avais vu à Cannes cette année.
Avec notre technicien, ouais, Jimmy Franqui.
Qui était en
Un certain regard
et ouais. Qui, je crois, a eu un prix.
Oui, mérité, parce que le film a eu, je crois, à la fin, plus d'un quart d'heure d'acclamation, qui était franchement mérité.
Alors, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais doit-on parler de film ou d'un diaporama ?
C'est difficile.
C'est difficile, bien qu'il y ait quand même des séquences filmées. C'est réalisé par Wim Wenders, hein, qui est un cinéaste qu'on connaît un petit peu, qui, on va dire que le plus grand de sa carrière est derrière lui, hein, Paris, Texas.
Disons qu'il a rebondi avec un autre genre qui est le documentaire, avec Mon ami Social Club, film sur Pina Bausch, dernièrement en 3D.
Et que je n'avais pas vu et j'en avais entendu que du bien.
Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas vu non plus, mais il paraît que c'est un des meilleurs films en 3D jamais réalisés.
Après, on l'entend souvent quand on évoque Ozu, et d'ailleurs, Ozu, il en a été question ces derniers mois, car c'est un grand fan de Ozu, notamment du film Bonjour. Donc, voilà. Et donc, oui, alors Salgado, c'est un photographe brésilien qui est parti en France pour poursuivre des études dans l'économie, je crois.
Je crois que c'est ça, oui.
Avec sa femme, qui était également brésilienne. Il a eu un enfant là-bas, qui est né en France. Et très rapidement, il va être muté à Londres dans le sud suite à ses études. Et il va tout plaquer pour s'intéresser à la photographie. Et de là va naître une passion et très rapidement un métier.
Un sacerdoce, presque, j'ai envie de dire.
Comment ?
Un sacerdoce, presque. Parce que vu tout ce qu'il a pu voir dans sa vie, c'est comme... Soit c'est un voyageur de la mort, quoi. C'est pour ça que j'ai un sacerdoce.
Il décide de... on découvre un petit peu le métier de photographe, qu'un photographe il décide de un projet pour un photographe, c'est un thème, et du coup on exploite ce thème à travers différents pays, à travers
Il y a avoir une vision aussi sur ces événements, enfin sur ce que tu sur ce que tu photographies, quoi, avoir un cadre, une vision, quelque chose à dire, quoi. Et c'est ce qu'a Salgado, quoi. Mais un vrai regard.
Et du coup, il va. On part du début, donc notamment des photos prises. Alors, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. On a l'impression que c'est une sorte de tour de Babel dans la jungle brésilienne. Donc, des Brésiliens, mat de peau. C'est faut préciser parce que du coup, c'est des photos en noir et blanc. Et on voit ces gens, des milliers, comme si on avait une ruche de fourmis qui descendent au fond d'un cratère pour récupérer, je crois...
c'est des minerais, oui.
Qui valent une fortune. Et donc, du coup, c'est toute la richesse qu'ils peuvent...
Et ils sont prêts à risquer leur vie, justement, pour extraire pendant des heures et des heures.
Ils montent du dénivelé, alors je ne sais pas combien de pourcents, mais c'est assez impressionnant. Et quand on regarde les photographies, on a cette impression de vertige, c'est incroyable. Bon, j'ai un peu du mal à décrire la photographie parce que c'est un art que je ne maîtrise pas tellement, mais c'est quand même assez extraordinaire. Et après, l'idée va lui venir d'explorer l'Afrique et la misère.
Les grandes famines.
Et là, je t'avoue que j'ai eu un petit peu du mal à supporter le film. Hein. C'est très, très dur. Hein. Moi, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, mais bon, tout ça, on sait que c'est du faux. Mais filmer les massacres au Rwanda, les famine,
exodes de population,
famine en Éthiopie, filmer, photographier ces trois enfants
morts,
deux encore vivants et l'autre, on voit ses yeux, on comprend qu'il n'y a plus de ce monde, ou ces enfants squelettiques qu'on pèse dans une sorte de pèse-homme, c'est. Ah, moi, j'ai vraiment. Ça dure quand même bien 15-20 minutes, j'ai failli sortir la salle, hein. C'est vraiment insupportable. Mais
il faut voir ça.
Il arrive à rendre beau l'horreur, la mort.
C'est d'ailleurs quelque chose qui lui a été beaucoup reproché. Hein.
Oui.
Parce que voilà, dans les photographes un petit peu militants, on va dire, les grands photographes, reporters, c'est vrai qu'il y a un débat vachement sur l'horreur. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit montrer l'horreur? Est-ce qu'il y a un sens à montrer l'horreur?
Comme pour les camps de concentration
aussi. Voilà, tout le monde n'est pas forcément. D'accord là-dessus, et c'est vrai que son travail fait souvent un débat à ce niveau-là. Autant la qualité fait jamais débat, mais le sens, des fois.
Voilà, et sinon, voilà, c'est donc diapo au cinéma, est-ce que c'est un diaporama ou un film? Bon, c'est pas ça entre les deux, parce qu'effectivement, on a une série de photos commenté par Salgado, également par Wim Wenders. Et il y a, je trouve, un magnifique. Bah, y a Salgado est filmé en gros plan, et par moment, la caméra se recule ou elle ne se recule pas, mais un miroir s'interpose entre la caméra, l'objectif et Salgado, et on comprend que voilà, Salgado regarde ses photos en même temps qu'il les commente. Et j'ai trouvé que c'était assez astucieux d'un point de vue de la mise en scène.
Et ce qu'il faut dire aussi, qu'au niveau des photos, c'est pas seulement l'horreur. C'est-à-dire qu'il a eu un vrai trajet. C'est-à-dire qu'il s'est posé ces questions, justement, de montrer l'horreur ou pas. Il a traversé tout ça. Il a photographié.
Sur 8 ans, 6 ans.
Voilà, hein, vraiment sur une longue période.
Les années 80.
Il dit que j'ai perdu la foi, etc. Ouais, en voyant tout ça. Mais la fin du film, elle est sublime, puisque ça te montre ses nouveaux travaux. Voilà. Où il a décidé, justement, de faire tout l'inverse, de montrer toute la beauté du monde.
Grâce à la nature.
Voilà, donc c'est Genesis, si je ne m'abuse, où il parle d'écologie, il parle qu'il a replanté une forêt entière. De là où il vient, etc. Donc je trouve que finir sur une note d'espoir comme ça, en même temps, après un long passage, voilà, de plusieurs minutes, vraiment limite insoutenable. Il faut vraiment voir les yeux. Moi, je dis qu'il faut voir ça.
Ah, moi, je ferme les yeux, pardon, je le dis. Hein,
faut pas avoir peur de voir ça. Et c'est un film qui est vraiment humain pour le coup. C'est vraiment de l'humain dans tout ce qui est de plus beau et tout ce qui est de plus moche.
Après, il a fait d'autres travaux, notamment toute la série. Sur les puits de pétrole.
Oui, c'est magnifique.
Ça, c'est vraiment sublime. Hein, ouais. Où l'humain se fond complètement dans le pétrole. On a l'impression qu'il est aussi noir que les litres et litres de pétrole qui lui tombent sur le visage. Et même ses flammes. Hein. Et on se demande, bien sûr, ça a été pris en photo. Enfin, je pense que c'est fin années 80, début années 90.
C'est pour l'explosion des puits de pétrole au Koweït.
Voilà, donc début années 90.
Ouais, 91.
Et bon, voilà, le numérique n'était pas encore là. Photoshop n'existait pas encore. C'est de la photographie.
C'est du vrai
authentique,
c'est de l'art.
C'est vraiment.
C'est vraiment la vision d'un auteur, la vision d'un artiste sur les événements du monde. Et pour le coup, c'est vraiment de l'art et c'est vraiment pour moi du cinéma. C'est la vision même du cinéma, quoi. Donc voilà. Moi, c'est un très très grand film à laquelle je m'étais pris une énorme baffe. Et moi, franchement, je vous le dis, je pense que je le mettrais dans mon top de la fin d'année, puisqu'on ressent quelque chose. Et je pense que c'est fait pour ça, l'art, c'est ressentir soit du dégoût, soit de la peur, enfin de la pitié. Et devant, on n'est pas insensible. Et ça, c'est de plus en plus rare.
Alors on va basculer justement sur un autre documentaire, alors qui n'est pas du tout dans le même registre, c'est donc celui produit par notre ami Keanu Reeves et qui parle un petit peu du passage de la pellicule au numérique, c'est ça si j'ai bien compris.
C'est ça, et rappelons le nom du metteur en scène puisqu'il n'a pas été beaucoup cité au Festival Lumière.
Par les producteurs, mais pas du
réel.
Christopher Connelly, qui fait vraiment un très très bon travail, c'est un très bon documentaire donc produit par la boîte de prod de Niro, donc Tribeca, qui a été diffusé dans le Festival de New York de Robert De Niro. Et c'est un... Pour quiconque aime le cinéma, je pense que c'est un documentaire vraiment passionnant. On voit toute l'évolution du cinéma, d'Effra Lumière jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc Keanu Reeves va à la rencontre des plus grands cinéastes en activité. Donc il va voir comme ça David Fincher, George Lucas, Martin Scorsese, Lars von Trier, Danny Boyle, un peu tous les pays au monde, enfin... de très très grands cinéastes de différents horizons, et il les interroge sur leur rapport soit à la pellicule, soit au numérique. Et ce qui est très très bien avec ce film, c'est que déjà, il y a des metteurs en scène qui jouent vraiment le jeu. Fincher, il fait le show, il sort des blagues. Mais vraiment, on sent le vrai sale gosse, Fincher, qui prend son pied à dire des gros mots, tu sais, dans le documentaire, en disant « Allez tous vous faire sodomiser, ceux qui n'aiment pas le numérique. » Comme ça, il le dit comme ça à la caméra.
Ouh.
Ah oui, mais c'est...
J'espère que ce n'est pas tourné les oreilles de Quentin. Hein.
Ouais, bah, Tarantino n'est pas dedans, mais Nolan est dedans, justement, pour le contre-exemple de défenseur.
Ah, parce qu'il y a quand même un champ, le champ est contre-champ.
Il y a tous les avis qui sont présents. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui hésitent, etc. Et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on suit déjà le cheminement Donc ça veut dire depuis la création du cinéma jusqu'à la création vraiment du DCP, des premières caméras, etc., en numérique, etc. Et ce qui est très très bien surtout, c'est qu'on voit vraiment tout le processus. C'est-à-dire on voit comment on fabrique des caméras en pellicule, après des caméras. Drôle d'écho, mais des caméras numériques, on voit comment ça se fabrique, on voit les ingénieurs nous expliquer comment ça fonctionne, on voit après comment ça se répercute sur la mise en scène, donc comment on tourne une séquence par rapport maintenant à du DCP, comment on l'étalonne, comment on la photographie. Donc les plus grands chefs opérateurs sont aussi dans le documentaire, donc il y a Vilmos Siegmund, etc., des très très grands directeurs de la photo sont là. On voit après comment le montage est affecté, donc on voit la monteuse de Laurence Darabi qui t'explique que moi, Laurence Darabi, si j'aurais aujourd'hui le numérique, je ne l'aurais pas fait de la même manière. La fameuse séquence de l'allumette, tu sais, le cut, oui. Et après dans le désert, il dit maintenant, aujourd'hui, on ne pourra pas le faire parce qu'il y a du pour et du contre. Voilà. C'est ça, c'est un film qui essaie de mesurer ce que ça peut nous emmener, ce que ça va nous retirer aussi, mais il n'y a pas un jugement. Et ainsi, on va suivre toute une histoire du numérique. On commence un petit peu par le dogme, qui est vraiment, ils disent que c'est vraiment les premiers à avoir.
Le dogme, donc initié par Lars von Trier, Thomas Wittenberg, et qui, est,
les deux
qui
sont a été interrogés, créé. Ouais.
Au Danemark en 95 ou 96.
Exactement, donc c'est à peu près les premiers. Donc il t'explique évidemment pour des coûts financiers, que après, du coup, par conséquent, en utilisant de la HD, la mise en scène forcément va être modifiée. Après, comment justement résoudre le problème de résolution? Donc on suit le parcours des nouvelles caméras, la Viper, la Red, etc., jusqu'à aujourd'hui les caméras 6K. Et pour le coup, c'est ça qui est vraiment très plaisant dans le film, c'est qu'on a vraiment tous les aspects. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité à c'est bien, c'est pas bien. C'est vraiment tout le monde peut évoquer ses idées, tout le monde parle, et des conséquences que ça va emmener aussi dans le futur. Le film se termine sur la protection des films. Donc on a Martin Scorsese qui explique, lui, avec sa fondation, il garde la pellicule, etc., il restaure les films, mais comment on va restaurer les films plus tard en numérique? On ne sait pas comment ça va se dérouler, tu vois. Et ça se finit sur un grand point d'interrogation, et c'est vraiment, vraiment fascinant, moi, je l'ai trouvé comme documentaire, même si c'est un côté très télévisuel. Donc ça veut dire qu'on suit des interviews, des extraits de films, des grands. Mais c'est pas non plus un grand film de mise en scène comme peut l'être Le Seul de la Terre.
C'est une succession d'interviews type making of à l'américaine.
Exactement. Ouais.
Voilà, mais c'est vrai que d'après ce que j'ai
compris. Keanu Reeves va interviewer aussi, je l'ai pas dit, il va interviewer les metteurs en scène.
D'après ce que j'ai compris, c'est qu'à la fin du film, on n'y est ni contre le numérique, ni pour l'argentique et vice versa.
Exactement.
C'est, on nous montre, on nous prouve dans ce documentaire par A plus B qu'il y a toujours des choses positives avec l'argentique, des choses positives avec le numérique. Exactement. Moi, c'est que ma position, moi, je trouve que le numérique, c'est vraiment un très bel outil pour la restauration de copies. Parce que
ils en parlent justement.
En règle générale, très souvent, les copies restaurées en DCP, en numérique, sont vraiment fabuleuses. Enfin, les copies sont fabuleuses. Et la restauration, elles sont fabuleuses. Mais c'est vrai que moi, récemment, vendredi dernier, j'ai pu voir Le Seigneur des Agneaux en copie argentique, une copie qui venait de Suisse, hein, sous-titrée en français et en allemand. Bon, ça, on fait abstraction de ça très rapidement. Mais j'ai trouvé que la copie était toujours aussi belle que finalement, revoir un film en 35 minutes, alors que maintenant, on est habitué à voir du DCP et du numérique. Moi, ça ne me dérange pas de voir des films de maintenant, ce support-là. Mais revoir un film 91, d'il y a 25 ans, tourne en pellicule, il y a ce petit côté nostalgique, intact du cinéma, du cinéma qui est toujours aussi magique, je trouve, et ça se regarde toujours aussi bien. Et le son est sublime. J'étais assez impressionné de voir que le son sur une copie argentique 35 mm était tout aussi efficace que sur une copie
DCP. Et tu vois, dans le film, encore plus loin que cette question-là en termes de vision de spectateur, puisqu'il s'interroge aussi sur les modes de projection. C'est ce que dit Lucas, il dit de toute façon, les grands cinéastes, on n'a rien à foutre, il devrait mieux aller voir comment on diffuse les films directement dans les salles avec le public pour constater de ce que tu viens de dire. Donc Cameron dit exactement la même chose. Et le film se termine donc sur un découlement comme ça sur les nouveaux moyens de consommation de films, c'est-à-dire que l'on pouvait les regarder sur des portables, sur les tablettes, etc. Et David Lynch, lui, dit moi, j'en ai rien à fiche, de toute façon, les films, moi, je veux qu'ils soient vus, peu importe comment on les découvre, la sensation, s'il y a vraiment une émotion qui est vraiment pure et sincère, on l'aura de toute manière si on regarde sur un grand écran ou sur un portable. Et il y a aussi, du coup, le côté.
Il y a quand même une différence. Hein. Tu sens la différence quand même.
À toi de faire ton jugement dans le film, il n'y a pas de jugement.
Oui, j'aime la différence, il y a quand même une différence. Tu ne perçois pas un film en salle de la même manière que sur ton iPhone. Ça peut se regarder, effectivement, dans le TGV, quand tu as envie de voir une comédie française filmée comme un téléfilm, c'est super, c'est génial. Mais quand tu vois un grand film et que tu veux l'apprécier dans tous ses côtés, d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue de la mise en scène, de l'éclairage, tout ça, la salle, c'est le meilleur des... Et que le film soit projeté en argentique ou en 35 mm, la salle, c'est vraiment le meilleur support pour apprécier et découvrir un film. Voilà.
Et un truc qui est tout bête aussi, je vais finir là-dessus, c'est qu'on se remarque en fait devant le film, c'est que George Lucas, il est tout emmené en fait. Il a tout emmené de ses nouveaux outils au cinéma.
De son THX.
Déjà, non, mais vraiment, je parle vraiment pour le côté argentique et le côté numérique. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers à utiliser vraiment les effets spéciaux digitales, donc il t'explique, etc., grâce à des méthodes numériques déjà en 77 avec le deuxième Star Wars.
Non, et 77, c'est le premier.
Le premier, pardon, excuse-moi. Et qu'après, justement, il va être avec le premier de la prélogie, le premier film diffusé en numérique, et le deuxième, L'Attaque des clones, va être entièrement tourné en numérique. C'est le premier blockbuster tourné en numérique.
T'es sûr que c'est... Mais le deuxième a été... T'es sûr que c'est pas plutôt le deuxième qui a été projeté pour la première fois en numérique ?
Non, le premier était diffusé, ils ont pris...
Mais où, parce que...
Dans plusieurs cinémas, il y a 2-3 cinémas...
En France ?
Non, aux États-Unis.
Ah voilà, parce que c'est le 2, c'est l'épisode 2.
Le 2 a été diffusé...
Dans certaines salles en numérique, je m'en souviens.
Et mais, le premier aussi, mais boum, très peu de salles.
Je me souviens, il fallait payer 15 euros. Parce que 2002, c'était déjà les euros, 15 euros pour voir le film en numérique, je m'en souviens.
En tout cas, c'est le premier film tourné à gros budget en numérique. Ah, L'Attaque des clones.
C'est faux, c'est Vidocq.
Oui, c'est ça qui est Vidocq aussi. Mais c'est vrai,
oui.
En même temps, oui.
C'est vrai que ouais, c'est
Vidocq. Mais c'est pas, le même blockbuster, je veux dire, tu vois, c'est pas le même niveau. Quoi.
Ouais. Ok, messieurs, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on écoute un premier morceau de musique et on se retrouve ensuite pour parler de Paradise Lost et aussi de la carrière de Benicio del Toro. There was a time I was a customer. The man behind me saw me put that follow you even further into something you were not. Just someone who liked that to wear. It's nothing personal. It's nothing personal. First to arrive after you leave. One minus one and just the center of gravity. Room 90.7, deuxième partie de notre Confluence Cinéma. Et nous allons donc parler du film Paradise Lost, qui est sorti il y a quelques jours et qui retrace, comme on vous l'a dit tout à l'heure, un petit peu l'histoire d'amour d'un jeune Canadien avec la nièce de Pablo Escobar, le célèbre trafiquant de drogue. Et du coup, bah, ça nous parle aussi de ses relations, lui, avec Pablo Escobar. Alors, Hakim, bah, je vais te laisser nous faire un petit peu le pitch du film, oui, puis on va en parler un petit peu.
Le film est essentiellement construit en flashback. On commence d'une partie pré-générique, hein, qui commence. Enfin, même pas pré-générique, parce que le film commence, il n'y a pas de générique. Mais on commence à l'instant présent, à savoir Pablo Escobar qui ordonne au petit ami de sa nièce d'aller tuer une personne, enfin d'aller cacher ce qu'on pense être de la drogue, mais après on croira que c'est pas de la drogue, dans une grotte, dans une forêt, dans un village, et ensuite de tuer la personne qui l'aura conduit dans cette grotte. Et là, on revient 5 ans auparavant, on voit ce petit Canadien qui est venu avec son frère, voilà, créer un petit business sur une plage en Colombie, et son frère sort avec la fille de Hippolyte Girardot. La fille, c'est une Française.
Anna Girardot.
Oui, voilà, exactement.
Avec sa petite fossette trop mignonne.
Voilà. Et voilà. Et il va rencontrer par hasard la nièce de Pablo Escobar.
C'est un peu des hippies, quoi. Faut dire, oui, voilà, quand même, parce que du coup, c'est rigolo, surf, parce que ça fait d'autant plus le vraiment le gros choc avec la famille Escobar, c'est que c'est un peu des petits Canadiens hippies avec des hamacs et qui se construisent un petit campement et qui vivent d'amour et d'eau fraîche au bord de la plage. Et lui, va effectivement rencontrer la nièce de Pablo Escobar.
Qui travaille, enfin, qui à cette période de l'histoire du film est un politicien, voilà, il s'oppose au gouvernement colombien,
sénateur qui est élu, qui est très populaire
Et auprès des classes modernes, et en fait c'est un gros trafiquant, nous on le sait, on connaît Pablo Escobar, mais plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte que cette personne qui semble être un oncle charmant, gentil, bah, en fait il suffit qu'il apprenne que quelque chose ne va pas et il note. J'aime bien cette petite scène où il note.
Ouais, sur sa main.
Sur sa main, ouais, tu t'es fait mordre par un chien, le chien de ce petit groupe-là qui t'interdit de t'installer sur cette plage-là. Attends, je vais m'occuper d'eux. Et après, on comprend qu'il les a pendus, qu'il les a brûlés vifs. Bon, voilà. Et c'est vrai que.
Ambiance,
voilà. Mais Benicio del Toro, oui, effectivement, il est habitué de ce genre de rôle. On en parlera un peu plus tout à l'heure dans.
Et il sauve quand même bien le film, d'ailleurs.
Voilà, mais moi, je savais pas trop.
Lui est l'acteur canadien, enfin l'acteur américain qui joue le Canadien. Moi, je trouve que c'est vraiment une des seules remarques positives finalement que j'ai à faire sur ce film.
Parce que c'est pas non plus.
C'est les deux interprétations qui sont très correctes, mais le reste.
C'est pas un film sur Pablo Escobar, hein. Voilà, le film s'appelle Paradise Lost. Hein. C'est pas Escobar, c'est pas Pablo. Pourtant, il y a l'image de Benicio del Toro sur l'affiche, et on va dire que c'est plus un film sur l'engrenage infernal.
La difficulté de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un comme ça d'un milieu
et surtout trafiquant. sortir de ce milieu. Après, cette histoire on aurait pu prendre pour cadre la mafia italienne, les triades en Asie, ou les yakuza. Bon, même je pensais pas
les Vorat Zakon en Russie.
Voilà, exactement. Et au final, le personnage Escobar, et donc du coup le jeu de Benicio del Toro, je trouve qu'il n'est pas assez exploité. On l'a vu dans des rôles beaucoup plus emblématiques, beaucoup plus fouillis, beaucoup plus
fou,
beaucoup
non
plus fou, exactement. Là, il n'est pas. Après, je ne connais pas vraiment la personnalité d'Escobar. Est-ce que c'était un fou furieux, c'était quelqu'un de lunatique qui pouvait péter un câble d'un moment à l'autre? Bon, là, il est gentillet, il est. Bon, voilà, il fait un petit claquement de doigts et il y a des tueurs à gages qui vont tuer des gens, mais c'est assez gentil, je trouve. Et,
Tout est très téléphoné aussi, moi, je trouve, dans les scènes. Le moment où lui, le petit jeune, va rencontrer Escobar, c'est au cours d'une réception, dans des scènes qu'on a vues un milliard de fois. Il est toujours dans un registre doux, Escobar, et d'un coup hyper violent, hyper dur. Enfin, c'est vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir vu un assemblage d'un millier de films sur des personnalités comme ça, des trafiquants ou des grands businessmen mafieux. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, ça nous amène pas grand-chose. Le lien entre ce mec-là et Escobar, qui pourrait être un petit peu la force du film, n'est pas du tout exploité. Entre creux, finalement, c'est vraiment à peine souligné, quoi, ce qui les unit ou ce qui les désunit à un moment donné.
Alors qu'il y a un film, enfin, ce film, et je pense que ça a été souligné par la plupart des critiques, et je pense peut-être, je sais pas si tu as vu ce film, mais ça a peut-être dû t'en rappeler. C'est Le Dernier Roi d'Écosse.
Ouais, j'ai pas vu celui-là.
Voilà, dans Télérama, il l'évoque.
Voilà, exactement. Et ça saute aux yeux. Voilà, un petit. Alors, dans Le Dernier Roi d'Écosse, c'est un Anglais qui arrive et qui devient ami avec le général Dada, voilà, qui est interprété par Forest Whitaker, hein, donc, qui a interprété un rôle à Oscar. Hein, on savait tous qu'il allait avoir l'Oscar avant d'avoir vu le film. Et là, par contre, la confrontation et en même temps le lien d'amitié entre ces deux personnalités différentes sur tous les points était beaucoup plus creusé, était beaucoup plus. Importante, beaucoup plus travaillée. Et là, c'est pas du tout le cas. On veut nous faire croire qu'il voilà, y a une relation amicale entre ces deux personnes, qui finalement à la fin va se terminer tragiquement, parce que voilà, c'est la loi du milieu, de la jungle. Voilà, quand il faut séparer ces personnes.
Il y a des trucs qui sont gros quand même, quoi. Quand le moment où du coup ce fameux petit jeune, on repart sur le présent, doit tuer le mec, et finalement c'est pas le mec qui vient, mais bien sûr c'est son fils de 15 ans qui lui-même a déjà un petit bébé de quelques mois. Donc ouais. C'est encore plus difficile de le tuer. Enfin, il y a des trucs. Moi, je trouve que c'est cousu de fil blanc, quoi. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui sont médiocres, et c'est dommage, parce que effectivement, moi, à la base, ça me tentait vraiment d'aller voir
puis
ça.
T'aimes bien le lent,
pour Benicio del Toro, et puis aussi pour justement cet angle de pas avoir forcément fait un biopic sur Escobar, mais d'être rentré par un personnage lambda, comme tu disais pour le Dernier Roi d'Écosse, comme on peut parler du film Hooligans, par exemple, où c'est un jeune américain qui se retrouve d'un coup au milieu des hooligans, et il va nous faire un petit peu une sorte de reporter sans le vouloir au sein d'un truc, enfin voilà, c'est vachement utilisé finalement ce truc-là, d'avoir quelqu'un d'un autre milieu plus proche de nous qui rentre dans un monde.
C'est la passerelle entre le film et le spectateur.
Voilà. Ça, c'est moi je trouvais même que c'était une bonne idée. C'est vraiment comme ça a été exploité, quoi. C'est très dommage. La manière dont c'est saccadé, ces 5 années où on a des tout petits flashbacks, il n'y a rien qui est creusé. Enfin, c'est dommage, quoi.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup à l'heure actuelle de projets sur Pablo Escobar. Il y a notamment la telenovela Pablo en 1000 épisodes, je crois. Je vous jure que c'est vrai, hein, c'est pas une connerie. Ils ont fait une telenovela sur Pablo Escobar, justement où il est montré comme un gentil tonton, un peu comme dans Le Parrain, qui rend des services, quoi. Et surtout, il y a Joe Carnahan qui voulait faire un gros Pablo Escobar, donc cinéaste du polar, qui a fait Narc, qui a fait Le Territoire des Loups, donc un vrai cinéaste de genre, plutôt engagé, un peu fou dans la mise en scène, qui voulait faire un vrai biopic avec Bardem dans le rôle de Escobar.
Mais ça s'est pas fait ?
Non, c'est capoté.
Ah bah ils n'ont pas réactualisé la page Facebook, la page Wikipédia. Hein.
C'est souvent comme ça. Il y a souvent deux projets concurrents sur des grands trucs comme Alexandre
et
à l'époque.
Ça se tire la bourre.
Et comme chez nous, Yves Saint-Laurent.
Oui, par exemple.
Mais Alexandre, il y a quelque chose.
Oui, Buzz Lerman à l'époque, il voulait faire aussi en même temps un film avec DiCaprio dans le rôle d'Alexandre.
Wow. Donc, du coup, DiCaprio en Alexandre.
Mais bon, bref, on va pas passer à autre chose tout de suite, messieurs.
Il faut quand même signaler que le film fait 2 heures. Et quand tu sors de ces 2 heures, tu as l'impression d'avoir rien appris. Ou du moins d'avoir vu une histoire qui aurait pu se raconter en 1h30.
Oui, voilà, c'est ça, c'est pas creusé, c'est dommage. Et voilà, une seule petite chose que ça peut montrer, mais bon, qu'on sait si on connaît un petit peu l'histoire de Pablo Escobar, c'est vrai qu'il y a cette aura un petit peu dont il jouit, même à partir du moment où tout le monde sait que c'est un assassin, un tueur, etc. Et c'est vrai que c'est hallucinant, la scène où il va, donc il a négocié de partir en prison, et il organise ça dans un stade, et les gens, notamment des classes populaires, sont alors, voilà, c'est pas qu'ils aiment spécialement un assassin, c'est plus qu'ils aiment un homme qui les aide en retour. Enfin, il y a eu quand même beaucoup ça, ce personnage. C'est aussi pour ça que c'est un personnage qui est voilà, un petit peu cinématographique, même sans film, parce qu'il a ce côté-là où c'est un mec qui a toujours énormément donné aux pauvres, qui a une popularité dingue, quoi, encore aujourd'hui.
Et
quoi.
Le film se termine là-dessus, hein. Et après, bon, bah voilà, il n'y a pas un petit. Je pensais qu'ils allaient faire ça, et finalement, non, ils n'ont pas fait un petit carton à la fin qui explique justement que voilà comment ça s'est terminé, etc. C'est vrai qu'après Pablo Escobar s'est fait tuer en 93. Mais bon, après, je sais pas, j'ai pas fait plus de recherches, je sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est un truc scénarisé.
C'est un truc fictif.
Ouais, je crois que c'est un truc fictif. J'ai pas lu beaucoup la presse là-dessus, mais les rares petites notes que j'ai pu voir, personne mettait que c'était tiré d'une histoire vraie et tout. Non, je pense que c'est. Mais ça, c'est pas gênant à la limite. Moi, c'est vraiment pas ça, c'est la manière dont il a traité son sujet. Après, c'est son premier film, donc à voir ce que ce mec-là peut donner par la suite. Mais c'est vrai que comme ça, ça fait pas rêver. Même la fin où, justement, pour faire écho au film, pour nous expliquer pourquoi ça s'appelle Paradise Lost, on en vient là même avant que ce mec-là rencontre la petite nana, au moment où il découvre cette belle plage en Colombie. Enfin, il y a des côtés assez ridicules.
On a compris.
Bref, mais nous, on va par contre arriver à quelque chose de plus intéressant. C'est justement la carrière et un petit peu les grands films de ce fameux Benicio del Toro qui est... portoricain qui approche la cinquantaine maintenant.
J'étais persuadé, à une époque, j'avais une discussion avec un ami et lui me disait qu'en fait, lui, il était américain et qu'ensuite, avec des origines portoricaines, et moi, j'étais persuadé que lui était né en dehors des États-Unis, qu'il était naturalisé américain de par son identité.
Bah après, le rapport de Porto Rico avec les États-Unis, c'est quand même particulier. En tout cas, c'est un mec qui est né à Porto Rico et qui s'est installé à 12-13 ans aux États-Unis, qui n'avait pas spécialement au début comme but de faire du cinéma. Puis rapidement, il s'est aperçu qu'il avait en tout cas envie de jouer la comédie sur les planches ou devant les caméras. Et il est parti faire à New York la fameuse école. Alors, je ne me rappelle plus, c'est Square Acting, je crois. Acting School, je ne sais plus. Il est parti à New York. Et puis après, comme tu expliquais à Raphaël tout à l'heure, ça a commencé avec Deux flics à Miami, notamment.
Oui, et d'autres séries aussi produites par Michael Mann, dont l'excellente Drug Wars, bien avant Johnny To. Une série justement sur les cartels. Donc il avait vraiment, quelque part, ce thème de la drogue, des trafiquants en lui. Quoi.
Oui, mais après, il a le physique pour jouer ce genre de rôle.
C'est pas voilà. Nanin, après, il pourrait
le refuser. Il n'a pas commencé avec la comédie. Moi, là où je l'ai découvert, c'est qu'il jouait à Suspect.
Il y a aussi avant il a quand même fait d'autres second rôles. Il avait commencé aussi dans Permis de tuer, il jouait l'un des sbires du méchant donc dans James Bond. Mmh. Et c'est aussi un James Bond qui est assez atypique puisqu'il parle encore une fois de trafic. Tu vois ce que je veux dire, il joue pas un homme de main dans un mec qui veut contrôler le monde.
C'est un des plus jeunes méchants d'ailleurs, je crois, dans James Bond.
Ouais, c'est ça. Non mais c'est assez atypique et c'est surtout pas un jeune premier quoi, on peut dire, Del Toro. C'est surtout une nouvelle gueule qui débarque dans le cinéma américain avec un phrasé particulier, avec une voix, une vraie tronche, quoi, une vraie gueule, un mec massif. Et il emmène un nouveau type de physique, je pense, à Hollywood à l'époque.
Ouais. Mais après, il va très rapidement un peu changer de registre, puisqu'on le disait, dans la première partie de sa carrière, il jouait les seconds rôles de méchant parce qu'il avait le physique qui allait, il avait le phrasé, la voix. Et au départ, il est un petit peu maigrichon. Après, il prend un peu de force et un peu de poids, et notamment beaucoup de poids pour Las Vegas Parano, qui là est à notre registre, où il joue le rôle.
Mon film préféré, moi, Del Toro.
Ah oui,
il est génial. Moi, c'est mon préféré. L'avocat dedans, c'est.
Le docteur Gonzo.
C'est extraordinaire, quoi.
Et puis,
on en parlait la dernière fois avec Raphaël. Cette scène quand même où ils arrivent tous les deux avec Johnny Depp dans le hall de l'hôtel, c'est quand même assez incroyable.
Il faut commander des pompes de golf, sinon on s'en sort pas vivant.
Non, mais voilà, c'est un film aussi où qu'il fait jaillir comme ça un petit peu sur un autre registre. Del Toro, tu parlais, il y a Usual Suspect bientôt, bien sûr qu'il a fait connaître. Moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé aussi dans Basquiat, le biopic sur le peintre Jean-Michel Basquiat. Et bien plus tard, dans 21 grammes quand même, dans 21 grammes d'Iñárritu, là, il est vraiment extraordinaire aussi en personnage comme ça, cabossé par la vie, alcoolique. On comprend que c'est un mec qui n'a pas une vie facile, qui s'est rangé des bécanes et qui, un soir, va s'oublier, va boire et va... provoquer un accident mortel qui va amener après tout ce truc du film de 21 grammes, etc., entre trois personnes. C'est vraiment quelqu'un en qui je crois à l'écran, qui a, comme tu disais, une gueule, et en même temps, je sais pas, une humanité, un truc qui se dégage aussi.
Dans une force et une faiblesse, quoi. Une sorte de faille vivante. Quoi.
Dans le Tché, il est quand même aussi impressionnant.
Bon, il a la gueule pour, tout le monde disait, c'est un peu comme... Ah, celui qui joue Claude François dans Clo-Clo.
Jérémy Régnier.
Jérémy Régnier, c'est des acteurs qui ont la gueule de ces personnes-là. Et donc, du coup, quand j'ai vu Jérémy Régnier dans le film de Ozon, Potiche, ah, oui. Je me suis dit, voilà,
il va jouer. Ouais, mais il y a quand même quelque chose
lui,
de plus.
Et lui, il a une gueule. Il avait la gueule de Che
Guevara. Il a quand même été ultra joué au cinéma, mais surtout dans des téléfilms. Il y a eu quand même pas mal de
j'ai
choses.
J'ai toujours vu.
Et tout le monde connaît son image, surtout, du Che.
Et oui.
Mais il a la même gueule, je veux dire, voilà, je le voyais dès le départ avec son béret, son gros cigare.
Oui, mais
bouche,
c'est pas le seul, je veux dire, t'as plein de. T'as, comment il s'appelle Gabriel Garcia.
Bernal.
Bernal, qui l'a joué dans un téléfilm, oui, par exemple.
Carnet de voyage,
c'est pas un téléfilm.
Non, non, dans un téléfilm, il joue Che Guevara, plus vieux, quoi, en fait. Quoi. Et. Voilà, enfin moi je trouve qu'il y avait quand même quelque chose en plus, même si le film m'a pas spécialement passionné de Soderbergh, mais c'est quand même.
Faut dire que c'est aussi un acteur très fidèle à Soderbergh.
Ouais.
Il a fait beaucoup de choses avec lui dans Trafic. Soderbergh l'emmène le pour interprétation grâce au Che. C'est aussi un acteur des gens de la marge, pour dire. Il a fait des Indiens aussi dans The Pledge où il joue un détraqué.
Et Jimmy P,
voilà. C'est vraiment un acteur voilà de l'autre Amérique, on pourrait dire, des laissés pour compte, des immigrés. De ceux qu'on ne voit pas d'habitude. Et c'est aussi un acteur, et ça qui est aussi paradoxal dans notre mesure, c'est aussi un acteur générationnel. Je pense que c'est vraiment un acteur de notre temps à nous, cinéphile. On a grandi avec lui, donc on a parlé du Duel Suspect, tous ses films cultes. Il y a aussi Snatch de Guy Ritchie.
Dans Snatch, il est extra.
Voilà. Il y a aussi Sin City. Sin City, où il joue un très bon rôle, etc.
Avec la tête coupée. Voilà. Coupée, le flingue dans la tête.
Voilà, donc c'est vraiment, je pense, des... plein de petits films, plein de petites touches par-ci par-là qui ont emmené ce côté aimé de notre génération. Quoi.
C'est et alors, Monsieur Lorenzo, génération. D'ailleurs, ça s'est illustré par plusieurs bières et verres au bar, quand même.
Bah oui, parce qu'il est venu deux fois au Festival Lumière.
Bah, je l'avais parlé au Festival de Cannes, mais vraiment, en tant que fanboy, je l'avais pas avec Dr Gonzo, et ça l'a fait écrouler de rire. Et après, on l'a pu l'approcher sur le bar. Il avait une magnifique casquette traquée. Très bon film de William Friedkin, une sorte de Rambo d'auteur. Et il l'avait pendant tout le festival. C'était un crevé de rire.
Bah, moi, je l'avais vu un matin pendant le festival à 10h sous le village en train de fêter les DVD. Et effectivement, très simple. Bon, il est quand même assez impressionnant, mais il a beau avoir des yeux éclatés, tout rouges, dus à des substances sûrement illicites, très gentil.
Daouche, arrêtez avec votre côté.
Une très gentille, il va te serrer la main avec sa grosse poigne. Un acteur très abordable. Et oui, je pense qu'effectivement, il fait partie de ces acteurs qui ont une gueule et qui... je vais redire ce que tu as dit, qui a marqué son temps. C'est peut-être pas un acteur avec lequel j'ai grandi, hein. Je vais pas non plus déconner, mais voilà, ça restera Sin City, ça restera Traqué, ça restera le Che Guevara surtout. Et moi, je l'aime bien également dans Trafic.
Mais il a aussi fait des rôles un petit peu particuliers. Il a aussi fait Wolfman, film de loup-garou.
Ah oui, alors avec tous les problèmes qu'il y a eu.
Exactement, qui n'est pas si mauvais. Mais,
ah oui, très bon. Hein, très bon.
Mais surtout, ça montre un autre côté bestial. Ce qu'il a, le côté sauvage, bestial. On voit que c'est dans Traqué, quoi, l'animal, justement Traqué.
Mais là-même, voilà, il a la gueule pour. Là,
c'est ça, ouais. Mais ça lui va très très bien. Et c'est bien qu'il aille aussi vers d'autres trucs. Maintenant, il va vers des trucs un peu plus commerciaux. Il a fait dernièrement Les Gardiens de la Galaxie pour Marvel, où il fait en gros Jim Jarmusch, avec la même coupe de cheveux, quoi. Et là, il fait le nouveau Paul Thomas Anderson qui sort. Au mois de janvier, donc on pourra le chroniquer ici même, un film de détective.
Il a pas joué dans un Woody Allen?
Non, je crois pas, ça me dit rien. Mais après, c'est pas étonnant non plus quand on voit aussi, c'est un petit peu les gens avec qui il peut partager des choses. C'est Johnny Depp, c'est Soderbergh, c'est aussi, il est très copain avec Sean Penn. Voilà, c'est quand même tous des mecs assez engagés, qui ont un côté aussi rocker. Mauvais garçon, quand même bien à gauche. Enfin, il y a tout ce côté-là un petit peu qui traîne et qui en font aussi un acteur sans être forcément ultra original ou quoi, mais qui est pas forcément, qui suit pas la droite ligne des boulevards hollywoodiens, quoi.
Ouais, il suit son chemin, il fait les films qu'il aime, il suit ses potes. C'est bien.
Et puis il alterne cinéma d'auteur, cinéma grand public, blockbuster, JBP quand même, dans le genre un film d'auteur. Il faut quand même aller accepter, quand tu t'appelles Benicio del Toro, que tu fais des films hollywoodiens, que tu es ultra primé, accepter de jouer dans un film d'Arnaud Desplechin face à
Malric,
bon, qui a quand même une petite carrière hollywoodienne. Hein. Voilà, c'est quand même des choix risqués. Je pense que ce qu'il a plus, c'est justement l'histoire autour des Indiens.
C'est ça, ouais.
Le touche.
Très bien, messieurs. Du coup, ça va être le moment de nous quitter. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'il y aura de beau au programme?
Quand vient la nuit, nouveau film du metteur en scène qui a fait Bullhead, metteur en scène belge dont le nom m'échappe.
Mmh. Avec notre ami Feu Gandolfini.
Le dernier film de Gandolfini.
Et Tom Hardy. Et Tom Hardy fait la couverture de Positif. Hein, c'est...
Donc, je pense qu'avec Aimément, on ira voir ça de toute façon.
Oui, avec son chien. C'est une question de chien.
Trafic de chiens, de bar qui blanchit de l'argent. Oui. Donc, un vrai polar.
Oui, et puis bon, là, la semaine est plus ou moins cool. Donc, on va pouvoir voir cette fois-ci de pas mal de films. Il y a Le Canard d'Or qui sort en DVD. Ah bon, de Michael Cimino.
Très bien. Allez, bonne semaine à tous.